nouveau sur la fréquence immaculée.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Du nouveau sur la fréquence immaculée.
Pour une formation intégrale de la jeunesse congolaise.
Pour la promotion des valeurs humaines, sociales, religieuses et culturelles.
Pour une jeunesse consciente, engagée et protagoniste du présent et du futur.
Suivez chaque samedi à 15h30.
L'émission Jeune pour Jeune
sur les ondes de Radio Maria
89.9 MHz.
Chers auditeurs et auditrices de la fréquence maternelle, chers internautes, chers jeunes, bonjour. Nous avons la joie de vous retrouver une fois de plus à travers cette voie des ondes. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité. Nous savons que nous tendons vers la fin de l'année jubilaire 2025 sur l'espérance. Jeunes et espérance, voilà, c'est le thème qui va nous concerner aujourd'hui. Et nous avons la joie, comme toujours, de recevoir le frère Ifin Goy, missionnaire de Saint-Paul. Frère Ifin, bonjour.
Bonjour, frère Omer.
En tout cas, merci d'être toujours et déjà là, hein, à cette émission. Les jeunes vous aiment bien, ils aiment bien vous écouter, ils aiment bien vous entendre. Et surtout, suivre tout ce que vous dites par rapport à votre expérience, par rapport à tout ce que vous pouvez leur dire afin de les aider à grandir, à croître dans leur formation et dans leur éducation. En tout cas, grand merci, frère Ruffin. Alors, sans plus tarder, je voudrais savoir ce que c'est possible de nous rappeler l'essentiel par rapport à cette année jubilaire qui tend vers sa fin, frère Ruffin. C'est-à-dire le thème, quand est-ce que ça a commencé. Et c'est possible de rappeler encore aux jeunes, peut-être qu'ils ont oublié. C'est vrai que nous avons eu à passer des émissions par rapport à ça, mais essayez un peu de rappeler peut-être les contextes, tout ça.
Oui. Alors, merci beaucoup pour la question. Je ne serai pas fidèle, très fidèle,
c'est pas grave.
Très précis. Mais au moins, je vais rappeler, à mon avis, ce qui est essentiel. Pour cette année jubilaire, nous l'avons commencé d'abord. L'année jubilaire est proclamée par le pape dans une bulle d'induction. Alors, ça revient au moins chaque 25 ans. Chaque 25 ans, il y a une histoire derrière ça, qui est une histoire biblique, ainsi de suite, et l'évolution dans les temps, que je ne voudrais pas évoquer pour ne pas être kilométrique. Mais pour cette année, d'abord, déjà 2024, le pape François, d'heureuse mémoire, avait proclamé une année d'abord de prière pour la préparation au jubilé, à l'année jubilaire 2025. Et c'est le 9 mai 2024 qu'il va publier quoi, la bulle d'induction sous les signes de l'espérance, ne déçoit pas, spes non confundit. Il va publier ça, il va rendre officielle cette bulle d'induction. Et après cela, vont suivre les cérémonies du début de l'année jubilaire, notamment l'ouverture des portes saintes au niveau aussi bien universel dans les églises papales de Rome et ainsi qu'au niveau local dans des diocèses, dans nos diocèses. Et j'ai eu la chance ici chez nous, lors de l'ouverture de la porte sainte de notre cathédrale Notre-Dame du Congo, j'étais là et je suis passé par la porte sainte, c'est une grâce déjà. Et voilà, et après cela, il y a eu des activités importantissimes comme les indulgences plénières pour ceux qui remplissaient les conditions. Il y a eu aussi le passage des portes saintes pour tous les fidèles, pour les pèlerins, les différents pèlerins, et suivi des différents enseignements sur le jubilé. Mais aussi, il y a eu les jubilés de chaque catégorie de personnes, chaque catégorie sociale de personnes,
y compris les jeunes.
Oui. Et pour les jeunes, je vais l'avouer, c'était très mouvementé.
Puisque vous étiez même à Rome.
Oui, j'étais même à Rome. Et ici, comme à Rome, et ici aussi, nous avons célébré, au niveau de notre archidiocèse, nous avons aussi célébré quoi, les jubilés des jeunes, et c'était toujours mouvementé. Comme disent les sages, que là où il y a les jeunes, il y a de l'espérance. Exactement. Là où il y a les jeunes, il y a du chaud, on peut dire. Voilà. Et nous avons poursuivi les jubilés et maintenant nous tendons vers la fin, vers la clôture ou la fermeture de cette année jubilaire. Voilà un peu l'essentiel de la récapitulation de ce qui s'est passé. Voilà.
Merci, merci frère Ruffin. Alors, puisque vous avez parlé des grâces, tout ça, ouais. Peut-être qu'il y a aussi des jeunes qui ont peut-être obtenu le même grâce que vous, mais qui ne savent pas les reconnaître.
Ouais.
Parmi ces grâces, vous pouvez quand même, c'est vrai que c'est personnel, mais
ouais.
Vous pouvez quand même nous le partager, peut-être, parmi les grâces reçues
parmi les grâces reçues
cette année, jubilaire.
Mais oui.
Vous êtes passé par la porte sainte.
Bien sûr, il y en a tellement beaucoup. Mm-hmm. Il y a beaucoup de grâces. La première grâce, c'est la grâce de l'espérance. Mm-hmm. Donc, fortifier cette espérance, réveiller l'espérance qui dormait en moi, cette espérance, la porter et me faire porter par cette espérance. C'est déjà une grande grâce, découvrir la richesse qui recouvre l'espérance. Et à travers cette année, à travers les différentes activités qui étaient organisées au sein de notre Église, j'ai vraiment découvert l'abondante richesse de l'espérance. Espérer, c'est tout être. On cesse d'espérer quand on meurt. Et quand on est encore vivant, on espère. Et nous vivons, j'ai découvert que nous vivons vraiment grâce à l'espérance.
Ouais. On dit même, tant qu'il y a de la vie,
il y a de l'espérance.
Ouais. Et nous rappelons que nous sommes au temps de l'Avent. Et la première bougie que nous avons eue à allumer,
ouais.
En fait, symbolise cette espérance qui doit toujours être là, avec nous. Mais frère Ruffin,
oui.
Il y a peut-être des jeunes qui nous suivent qui ne savent pas vraiment faire la différence entre espérance et espoir.
Ouais.
Je voudrais quand même savoir, vous en tant que théologien, en tant que paulinien, apôtre communicateur, est-ce que vous pouvez aider ces jeunes qui nous suivent, qui voudraient aussi savoir différencier entre... Est-ce c'est la même chose quand on dit espérance et espoir? Si c'est la même chose, en quoi est-ce qu'il y a de la ressemblance? Et si c'est différent, en quoi est-ce qu'on peut le différencier? Espérance et espoir. Les jeunes vous écoutent.
Bon, c'est une question un peu difficile. Pourquoi? Parce que, moi je vais inviter tout simplement les jeunes à consulter les dictionnaires de voir cette différence. Mais de façon pratique, il y a une différence. Bien que ça dépend aussi des contextes, il y a des contextes où on peut parler de l'espérance, de l'espoir. Mais moi, je pense que l'espérance, c'est vraiment lié à notre être chrétien. Étant chrétien, on mise beaucoup plus sur l'espérance. Alors, pour établir une différence, je ne partirai pas des concepts, mais je partirai des exemples.
Oui.
Lorsque nous écrivons une demande d'emploi, une demande d'embauche dans une société, on fait quoi? La formule finale, elle est presque la même chez tout le monde. Dans l'attente d'une ceci, cela, ou encore... dans l'espoir d'être accueilli, des choses comme ça. Ça, on parle de l'espoir, c'est-à-dire...
D'une suite favorable.
Voilà. Donc, cet espoir... Là, on parle de l'espoir. L'espoir est encore marqué par une certaine incertitude, quelque chose qui peut ou ne pas venir, qui peut ou ne pas aboutir. Alors, l'espérance, j'ai dit dans le cadre de la chrétienté, de notre Église, nous savons que l'espérance, c'est... le déjà là est pas encore là. Le déjà là, donc l'espérance n'est pas seulement un concept, mais nous relions cette espérance à une personne. une personne divine, et c'est le Christ. Le Christ, notre espérance. Même les Écritures saintes l'attestent. Donc, le Christ est notre espérance. Donc, quand nous parlons de l'espérance, il n'y a pas d'incertitude. Il y a la certitude. Voilà. Donc, la certitude et l'incertitude peuvent être les concepts qui peuvent nous aider à différencier l'espoir et l'espérance. L'espoir, il y a de l'incertitude. On espère, dans l'espoir, la chose peut ou ne pas venir. On peut ou ne pas m'engager. On peut ou ne pas me prendre dans telle ou telle autre société. Mais quand on parle de l'espérance, là, on est certes que quelque chose de bien va se produire. Nous espérons le salut et nous sommes convaincus que comme le Christ est là, avec tout ce qu'il nous a, avec tout l'amour qu'il a pour nous, nous espérons dans l'espérance que nous aurons le salut. Voilà un peu les exemples que je peux avancer pour distinguer ces deux concepts.
Merci, merci frère Ruffin. Par rapport à ce que vous dites, vous pensez que en fait, vous voulez dire aux jeunes qu'ils ne doivent pas mettre leur espérance, disons, aux humains, c'est ça en fait?
Ils doivent mettre de l'espoir aux humains et l'espérance en Dieu.
Oui. Oui, parce que les humains peuvent toujours décevoir mais Dieu ne déçoit jamais.
Voilà, c'est là maintenant, on arrive au thème principal de notre jubilé, l'espérance ne déçoit jamais. Et cette espérance, c'est l'espérance mise en Dieu. Et ce n'est pas une espérance que je mets à une personne humaine avec ses faiblesses et ses imperfections et ses qualités. Mais là, j'ai de l'espoir que nous vivrons toujours et toujours dans l'amour avec les autres. Mais avec Dieu, j'ai la certitude, j'ai l'espérance. Donc l'espérance doit être mise en Dieu. Donc c'est Dieu qui doit être l'objet, si je peux dire, de notre espérance.
Merci, merci frère Yves. Mais je vais encore vous poser une question difficile.
Ouais.
Parce que les jeunes qui nous suivent aussi ne sont pas naïfs.
Hein? Effectivement, ouais.
Nous vivons dans un contexte de guerre,
ouais,
au Congo.
Ouais.
Peut-être ici à Kinshasa, on ne le remarque pas.
Effectivement.
Mais à l'Est, vous pensez que ces discours marcheraient aussi là-bas? En fait, à tous ces jeunes qui souffrent, à tous ces jeunes qui n'ont pas, peut-être pas à manger, ouais, tous ces jeunes qui ont de la peine pour étudier, qui voient que chez eux, ça ne marche pas, mais chez les autres, ça va. Est-ce que... Quel message d'espérance pour ce jeune-là? Comment leur dire qu'ils peuvent aussi être pèlerins de l'espérance alors qu'ils traversent des moments difficiles, des moments parfois qui leur donnent l'impression que ce Jésus-Christ-là, qui est notre espérance, n'existe pas?
Voilà, merci. Comme vous l'avez souligné vous-même, c'est une question difficile, mais je vais répondre, donc donner mon point de vue. Et cela me permet encore de faire comprendre davantage ce que c'est l'espérance. L'espérance nécessite l'engagement. Donc, dans l'espérance, il y a l'engagement. Et quand il n'y a pas d'engagement, ça, ce n'est pas de l'espérance. Et donc, l'espérance n'est pas naïve. Et l'espérance, quand on espère quelque chose, on travaille pour l'atteindre, pour atteindre cette chose-là. Et l'espérance en Dieu dont je prône ici, c'est cette espérance qui nous pousse à trouver des solutions, qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes, à travailler sur nous-mêmes, à remplir notre responsabilité, pour dire comme les stoïciens, à faire ce qui dépend de nous. Donc, essayer de faire ce qui dépend de nous, donner le meilleur de nous-mêmes. Même ces jeunes, d'ailleurs, c'est quand on est dans la souffrance, quand on est dans une difficulté atroce, qu'on trouve sens de l'espérance. On comprend combien l'espérance, c'est notre ami de route, on peut dire. C'est l'espérance qui nous porte, parce que c'est l'espérance qui va nous donner le sens de notre existence, qui va donner effectivement le sens même de nos manquements. Donc nous trouvons un sens à la mort de nos frères et sœurs, à la mort des personnes que nous aimons très bien, à la perte de quoi que ce soit, de nos choses que nous aimons. Et quand nous avons l'espérance, nous continuons de vivre sous cette espérance. Nous espérons que cela va se terminer plutôt et avec notre engagement, bien sûr, avec notre participation, comme disait le pape Léon, l'espérance est participative, l'espérance est engagement, l'espérance est active, l'espérance n'est pas passive, n'est pas naïve. Donc l'espérance nous pousse à nous engager, à remplir nos responsabilités. Et quand nous remplissons nos responsabilités, c'est là, non seulement pour les personnes qui souffrent, mais les personnes qui voient les autres souffrir. Et cela va nous interpeller. Quel message d'espérance? Il faut s'engager, être actif, être attentif à ce qui arrive, nos frères et sœurs, à ce qui arrive, nos familles, à ce qui arrive dans notre pays. Être attentif à cela et trouver des solutions. Quand on est attentif à ce qui nous arrive, on trouvera des solutions pour mettre fin à cela. Mais cela, c'est chacun à sa part des responsabilités, chacun a la tâche qu'il doit remplir et cette tâche doit être remplie avec le lien de l'espérance. Nous espérons que la paix reviendra, nous espérons que nous aurons la vie sauve, mais avec notre engagement, avec notre participation.
Merci frère Ruffin. Mais est-ce que pèlerin de l'espérance,
ouais.
Alors, que pensez-vous, les jeunes devront arrêter d'être pèlerins de l'espérance quand on clôture l'année jubilaire ou bien ça doit continuer?
Voilà, là, vous verrez, si vous participez dans des manifestations, par exemple, comme vous êtes aussi religieux, quand il y a les prêtres et l'ordination de prêtres, à la fin, on lui accorde la parole. Il dit, généralement, ce que j'ai beaucoup écouté dans des messes, il dit quoi? Et maintenant, la formation, comme le point systématique, finit, mais maintenant la formation commence. Même ceux qui finissent les noviciats.
Même la récan finit,
la
retraite.
Voilà, on dit, maintenant la retraite commence après...
La vraie retraite commence.
La vraie retraite commence,
après la
voilà.
Retraite.
Moi aussi, je répéterai les mêmes paroles. Donc, oui. Le vrai jubilé commence après les jubilés.
Oui.
Donc, c'est maintenant le moment de nous servir des grâces que nous avons bénéficiées tout au long de cette année sainte, de cette année jubilaire, les appliquer dans le reste de temps que nous allons parcourir. Donc, même après l'année jubilaire, nous continuons à vivre dans l'espérance. L'espérance ne finit pas avec l'année sainte, mais elle continue, elle doit nous guider. L'année sainte nous a permis de découvrir les richesses de l'espérance et nous devons maintenant profiter, bénéficier, mûrir, enrichir et découvrir davantage ces richesses.
Merci, mais concrètement, puisque vous avez dit après la fermeture officielle,
ouais.
C'est alors que devrait commencer la vraie année, maintenant sainte, c'est à ce moment-là que le jeune doit être le vrai pèlerin de l'espérance.
Ouais.
Concrètement parlant, qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil, par exemple? C'est-à-dire ceux qui doivent appliquer concrètement pour être de vrais pèlerins de l'espérance.
Tout au long de cette année jubilaire, on nous a demandé le pardon, le patience dans la recherche de nos choses. De ce que nous voulons être,
pardon,
ce que nous voulons devenir.
Patience.
Donc, pardon, patience. Il y a aussi la justice, l'engagement. Ce sont concrètement les actes que nous devons. Là, je cite seulement quelques-uns, parce que vous m'avez demandé d'être un peu concret. Déjà, le pardon, c'est quelque chose de très important. Avec le pardon, la justice, la patience, l'engagement et tout ce qui va avec. Parce que quand on pardonne, c'est-à-dire on a eu le temps d'écouter l'autre. Nous pardonnons, mais aussi savoir demander pardon, savoir écouter. Ce sont les vertus que nous avons eues à approfondir tout au long de... de ces temps de ces temps de jubilé, de cette année jubilaire. Nous avons y approfondir ces choses-là. C'est maintenant que nous devons commencer maintenant à appliquer, parce que nous avons vu cela. Peut-être nous n'avons pas eu une situation concrète qui nous a exigé au long de cette année sainte de demander pardon, et donc une offense terrible que nous avons estimée impardonnable et que nous avons osé demander pardon. Peut-être nous n'avons pas rencontré cela. Mais après, si cela nous arrivait, il faut maintenant appliquer ce que nous avons eu à approfondir, à acquérir. Voilà donc concrètement la patience. Quand on cherche quelque chose, la patience va nous guider. Même dans la bulle d'induction, le pape François, d'heureuse mémoire, revient sur cela. Nous devons être patients dans la recherche d'emploi. Nous devons être patients dans nos études. Nous devons être patients, ainsi de suite. Nous devons aussi être tolérants. La tolérance aussi peut nous aider à bien comprendre l'autre. Parce que parfois nous sommes trop durs envers les autres, nous sommes trop durs parfois même envers nous-mêmes. Mais avec la tolérance va nous aider. Parce que nous nous blâmons parfois nous-mêmes. Non, pourquoi aujourd'hui j'ai passé des heures et des heures, je n'ai pas travaillé? Pourquoi aujourd'hui on se blâme? On n'est pas tolérant envers soi-même, ou difficilement on est tolérant envers les autres. La tolérance aussi va nous aider et doit nous aider l'après-jubilé. Et nous devons aussi être tolérants. Mais cela demande d'abord la prise de conscience que nous sommes vraiment des pèlerins d'espérance. Nous sommes ces pèlerins qui s'engagent pour trouver un plus, le plus meilleur, la chose la plus meilleure de notre vie. Et pour ce faire, nous devons appliquer toutes ces vertus. Donc, les vertus s'entremêlent, s'entrelacent. Donc, on ne peut pas seulement... Quand on prend la justice, on prend la justice. Donc, on prend aussi d'autres vertus qui sont tout autour. Quand on prend la patience, on sait qu'on peut nous énerver ainsi de suite. Quand on prend telle ou telle autre vertu, il faut aussi être capable d'assumer les conséquences, assumer aussi d'autres vertus qui vont avec. Voilà.
Merci frère Ruffin, mais je commence avec le pardon.
Oui.
Parce que vous avez parlé du pardon. Je suis souvent dans le milieu juvénile. Hein.
Oui.
J'ai parfois le temps de dialoguer avec les jeunes. Moi-même, je suis jeune. Il y a de ces jeunes qui trouvent que le pardon, c'est aussi un signe de faiblesse. C'est-à-dire, tu as peut-être essayé de pardonner une fois et on en a abusé. La deuxième fois, c'est toi qui as été victime. La troisième fois et ainsi de suite. Et à ces jeunes-là, peut-être qu'ils se sont dit non, à partir d'aujourd'hui,
je ne pardonnerai plus
parce que j'ai l'impression que quand je pardonne, on pisse sur moi. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que vous pensez que ces jeunes ont nécessairement tort? Est-ce que celui qui a pardonné, peut-être, c'est vrai que le Christ nous a dit pardonner 70 fois, 7 fois, mais à ce jeune-là, peut-être, qui n'ont récolté que la déception après avoir pardonné et dont on a abusé, vous pensez que parce qu'ils refusent de pardonner les autres ou parce qu'ils prennent la résolution de ne plus pardonner, vous pensez qu'ils ne sont pas... Ils ne peuvent plus être considérés comme des pèlerins d'espérance.
Bon, je vais commencer par dire que le pardon, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe d'amour. C'est seulement celui qui aime qui peut pardonner. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand on aime, on pardonne facilement. Voilà pourquoi quand je parlais des vertus que nous devons mettre en jeu, donc, quand on prend une vertu, on doit aussi assumer les vertus tout autour. Quand on pardonne, donc on aime. Et quand on aime, là on entre maintenant dans la logique. Quand on aime quelqu'un sincèrement, on n'est pas obligé, ou encore la tautologie, d'obliger. On n'est pas obligé d'obliger l'autre la réciprocité. Alors, il y a de ces jeunes qui sont déçus. Et quand il y a des espoirs, c'est là où on prêche maintenant l'espérance. Voilà, quand quelqu'un est déçu, On lui parle de l'espérance et c'est cette espérance qui va l'aider. Je crois ici, parfois, on parle un peu de façon générale, Mais il y a des jeunes surtout qui fréquentent des groupes et mouvements, des paroisses. Il y a des gens qui sont formés pour ça, qui aident concrètement ce qu'ils doivent faire. Et parce que dans le pardon, ce n'est pas... tu dis, bon, quelqu'un t'énerve, tu ne lui parles pas directement, tu te dis seulement dans ta tête, bon, je le pardonne, non. Le pardon exige aussi le dialogue. Parler avec l'autre et puis arriver à la conclusion du pardon. Ce n'est pas toi-même dans ta tête, tu penses que l'autre t'a offensé. Alors que la personne que tu soupçonnes l'offense, lui, n'est pas conscient de cela. Et tu vas te dire, non, je pardonne parce que... Après, la personne est indifférente, tu penses que non, c'est de l'indifférence ou elle n'est pas reconnaissante. Mais... parfois, on n'a pas la culture du dialogue. Parler avec l'autre, écouter l'autre, avancer les arguments et puis aboutir à ces pardons. Et c'est ces pardons qui deviennent durables parce que ces pardons seront accompagnés quoi, de l'amour, des signes d'amour. Mmh. Et quand on aime, on s'attend à tout. On est capable d'assumer l'ingratitude tout comme la gratitude.
Merci, merci frère Ruffin. Vous avez aussi parlé de la justice.
Ah ouais.
Je reprends le contexte des guerres, parce que nous, c'est un fait, c'est concret, c'est réel.
Ouais.
Encore, je reprends. Ici, peut-être, nous sommes bien, pas nécessairement à l'Est. Il y a aussi des gens qui nous suivent à l'Est.
Ouais.
Il y a des jeunes qui nous suivent. Bon, je suis un jeune. Un adolescent, ou peut-être jeune adulte, mais il y a des gens qui entrent chez nous, qui violent mes parents, mais disons ma mère, mes sœurs.
Ouais.
Devant moi, je vois des gens qui nous font du mal, peut-être qui tuent un de mes frères, qui prennent l'argent de mes parents, qui nous prennent l'essentiel, peut-être ce sur quoi était fondé notre espoir, pour vivre, pour manger, pour étudier. On nous prend tout ça. Et je vois ces gens-là. Vous pensez que c'est facile à un tel jeune de pardonner? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? En plus d'être jeune comme lui, vous êtes religieux. Qu'est-ce peut-être un message d'encouragement à ces jeunes qui a peut-être traversé ce genre de moments, c'est-à-dire blessés de façon, je dirais, exagérée, vraiment piétinés là, même sa dignité bafouée. Est-ce que c'est facile de pardonner? Quel conseil à lui prodiguer?
Bon,
pour qu'il soit un vrai pèlerin de l'espérance. Je sais que c'est difficile, surtout quand on n'a pas vécu ça, c'est très difficile, mais peut-être que vous avez un message d'espérance à dire à tous ces jeunes qui nous suivent et qui traversent ce genre de situation.
Oui, c'est une situation très difficile. Et d'abord, je dois exprimer mes compassions envers toutes ces personnes-là. Et ça, c'est un cas. Moi-même, j'ai déjà à vivre cela. Et je trouve la meilleure façon peut-être de compatir avec ces gens, c'est exprimer. Donc, peut-être ce que moi, j'avais senti et ce que j'ai senti après, ce que j'ai fait après. Et il n'y a pas 2 mois, il n'y a pas 3 mois, j'ai perdu un oncle, j'ai perdu un beau-frère tué comme ça.
Dans des situations similaires.
Donc quelqu'un tué comme ça. Alors, qu'est faire? Donc, c'est une situation délicate, mais je pense qu'il y a possibilité de surmonter cela. Mais en premier lieu, il faut laisser tous les sentiments possibles traverser notre cerveau. Ne pas bloquer les sentiments. Laisser les sentiments traverser tout ce qui peut passer. Si il faut pleurer, n'interdisez pas à ces gens de pleurer. Laissez la personne pleurer parce que c'est une manière de se défouler. accorder l'attention à cette personne, écouter la personne. La personne peut parler des choses parfois insensées, mais écouter cette personne, être proche à cette personne. Donc, dans ce sens, ce n'est plus maintenant la personne elle-même qui va trouver un sens à cette souffrance, mais plutôt son entourage. Donc, c'est pourquoi moi, je parle en termes d'entourage. L'entourage doit aider cette personne à revenir sur ses effets et puis maintenant parler maintenant du pardon. Le pardon ne vient pas sur les champs, mais d'abord il faut laisser la personne s'exprimer, écouter cette personne, parce que si la personne doit emmagasiner les phénomènes, par exemple on a violé la maman, on a fait ceci, si la personne absorbe comme les chiffons. Quand elle absorbe des choses comme ça, après, ça va s'éclater et ça peut aboutir parfois à la folie ou à tant d'autres choses, tant d'autres catastrophes. Accorder de l'attention à la personne, que la personne s'exprime, que la personne parle.
Il se libère.
Se libère, oui. Quand la personne se libère, c'est à la fin qu'on peut dire, qu'on peut maintenant compter, on peut lui dire les mots de consolation. Par exemple, lui dire, c'est arrivé, prends courage. Et ne fût-ce que lui demander de prendre courage, tout ira mieux après. Parce qu'ils ne font pas non plus commencer à moraliser la personne. Ils ne font pas commencer à moraliser la personne. Approchez la personne, soyez avec elle, suivez les signes corporels qu'il donne, aidez cette personne. Pas seulement avec des paroles, mais avec certains gestes concrets. Là, vous pouvez facilement l'aider. Ce n'est pas une situation facile à dire à la personne seulement que non, espère encore. La personne continue à être pèlerine d'espérance, mais vous n'allez pas lui dire directement sur les champs. Vous l'aidez avec des actes concrets et c'est à la fin. Quand vous trouvez que la personne maintenant est quand même temporisée et maintenant dans son état, vous pouvez maintenant proposer d'autres remèdes d'espérance, voilà. Mmh. Ouais.
Merci Frère Ruffin. Vous avez aussi parlé de la justice.
Ouais.
Et moi, je suis d'avis que pour aider aussi nos jeunes à faire preuve effectivement de pèlerin de l'espérance, il faut aussi qu'il y ait un cadre, un environnement qui leur permettent de disons cadre et environnement qui leur permettent de bien pratiquer les vertus de l'espérance.
Effectivement.
Et tel que nous vivons, tel que nos jeunes évoluent, que ce soit dans nos familles, dans la rue, à l'école, à l'université. Ne pensez-vous pas que certains éducateurs peuvent aussi aider les jeunes à être de vrais pèlerins d'espérance? En quel sens les éducateurs, ceux qui fréquentent les jeunes, peuvent contribuer à ce que ces jeunes-là mettent effectivement en pratique les valeurs de l'espérance ou de l'année jubilaire?
Ils doivent enseigner par les œuvres.
Exactement.
Ils doivent être protagonistes des paroles qu'ils expriment. En premier lieu, on n'interdit pas d'enseigner par la parole, mais la parole et les actes, les œuvres. Donc, s'efforcer, de la part des encadreurs, ils doivent s'efforcer à vivre ce qu'ils prônent comme vertu. Ils doivent s'efforcer à prôner cela, mais vu que on ne parle pas à un public des adolescents seulement, il y a aussi des jeunes déjà matures. À ce jeune-là, je vais demander le discernement. Le discernement nous aide à distinguer ce qui est comme faiblesse dans la personne qui nous enseigne et ce que nous pouvons prendre à cette personne. Mais je pense que l'exemple concret de la vie. Par exemple, j'ai dit ne vole pas, et moi-même je ne vole pas, je peux contribuer, je peux t'inspirer davantage que de te dire ne vole pas, mais tu me vois en train de voler. Ça serait peut-être vague. Et voilà, donc la meilleure façon de contribuer à inculquer les vertus à ces jeunes-là, je pense que la pratique est très concrète. Les œuvres doivent accompagner ce que nous disons, ce que nous prenons, doivent toujours nous accompagner, doivent accompagner les paroles que nous admettons.
Voilà. Merci, merci. Et parlant de la justice, encore... il y a encore ces adultes-là qui font, par exemple, de l'injustice.
Mm-hmm.
Vous prenez, par exemple, il y a des jeunes compétents qui cherchent du travail.
Mm-hmm.
Ils se disent, bon, nous avons appris durant l'année jubilaire
à être juste.
Être juste, être protagoniste du pardon, être ceci, cela. Et il va mm-hmm. chercher du travail avec un autre jeune. Il a la compétence. Mais il voit bien qu'il n'est pas pris ou il n'est pas porté parce qu'on favorise tel ou tel autre jeune à cause des liens peut-être familiaux ou parce que tel jeune a accepté de céder, a accepté de faire ceci ou cela pour être embauché. Et vous pensez que ces jeunes-là peuvent encore garder cette valeur-là de justice?
Les jeunes-là ont mille raisons de garder la justice.
Malgré le fait que cela peut faire en sorte qu'il perde son travail.
Oui.
Vous lui avez dit d'être pèlerin de l'espérance.
Oui.
Et, ou bien d'être injusticieux.
Oui.
Mais il se rend compte que cette justice-là fait en sorte qu'il perde beaucoup de choses. Vous lui avez demandé d'être honnête, mais ça lui fait perdre beaucoup de choses.
Oui, mais on ne guérit pas le mal par le mal. Donc, la personne, c'est là maintenant qu'elle va trouver mille raisons de demeurer juste. Oui, jusqu'à être héros. Quand nous voyons les héros dans le monde entier, vous voyez que la plupart ont résisté à l'injustice. Et quand on résiste à l'injustice, on ne devient pas seulement fort, mais on devient héros parce qu'on prône les valeurs. Et c'est là que l'espérance prend même sens. Voilà, donc à ces jeunes-là qui sont confrontés à de telles situations, ils ont maintenant mille raisons d'espérer, de combattre cela, donc transformer ces problèmes en un combat. Ils doivent mener ces combats, donc militer pour que la justice revienne. Dans l'espoir que ce que vous posez, parce que vous ne pouvez pas prétendre combattre l'injustice tout en étant injuste vous-même. Donc, vous devez prendre position. Donc, prenez la justice, même le jeune. Moi, je suis sûr, les jeunes peuvent changer le monde. Peuvent changer le monde. Les jeunes conscients. Et quand, dans des choses comme ça, vous avez des gens qu'on peut appeler des leaders, donc qui prônent les vraies valeurs de notre société, vous verrez que les protagonistes peuvent souffrir. Les protagonistes peuvent souffrir, mais ce qu'ils laissent derrière eux peuvent régénérer, peuvent encore donner sens à d'autres, et peuvent inspirer au fait d'autres personnes. Voilà pourquoi je dirais qu'ils ne se fatiguent pas, qu'ils commencent à se battre. Au milieu de l'injustice, c'est là qu'on doit prôner la justice. La prière de Saint François d'Assise en dit long, que là où il y a l'injustice, que je mette la justice. Et la justice ne se met pas là où tout est calme, l'eau est déjà calme, tu viens maintenant prôner. Mais c'est quand, comme disait un professeur, les grands chasseurs doivent aller chercher les champignons là où les lions rugissent.
Même les chrétiens doivent aller en eau profonde.
Voilà. Donc,
c'est risqué.
C'est ça même, combattre les antivaleurs. Ce n'est pas rester là, bon, parce que moi, ça va très bien, il n'y a pas de l'injustice, je vis très bien, donc je suis pèlerin d'espérance. Non, il faut savoir lutter contre. Et quand on lutte contre, c'est-à-dire on s'engage dans ces combats-là.
Merci beaucoup, frère Ruffin. Un autre aspect que nous avons eu à... apprendre de cette année jubilaire, c'est les bénévolats. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore retrouver des jeunes aujourd'hui bénévoles, c'est-à-dire ces jeunes-là qui sont capables de faire de bien, d'accomplir le bien sans attendre quelque chose, peut-être des, comme récompense. Mmh. Vous pensez que c'est possible d'en trouver aujourd'hui?
Oui, oui, c'est encore possible. Même ici chez nous au Congo, il y a toujours de ces jeunes-là qui sont encore bénévoles. Oui, qui aident sans attendre d'autres choses. Mmh. Et j'ai eu un témoignage d'une personne qui avait connu l'accident et tout lui a été dépouillé, mais les jeunes qui étaient là, nous pensons qu'ils devaient maintenant se mettre là en train de filmer et tout comme ça. Mais non, ils ont vraiment apporté leur solidarité, ils ont protégé la personne, ils ont payé son transport jusqu'à son domicile. Voilà. Et ils ont suivi même les voleurs pour remettre les choses. Ce sont des cas rares, mais parfois on pense que ici à Kinshasa où nous sommes, on pense qu'il y a toujours des anti-valeurs. Mm-hmm. Mais attention, moi j'ai dit haut qu'il y a encore de ces jeunes-là. Et voilà, j'encourage ces jeunes à demeurer comme ça, à influencer aussi les autres, à aider les autres aussi à être bénévoles, parce que ce n'est pas donné à tout le monde, mais il y en a encore, on peut encore en trouver dans notre pays, dans notre ville, même dans nos quartiers, on peut encore en trouver. Si dans 90, dans 100% des anti-valeurs, on peut trouver même 1 ou 5% des personnes qui savent aider sans attendre des récompenses. Il y en a, on peut trouver.
Frère Ruffin, si l'espérance est le moteur, quel projet ou quel rêve d'avenir? Vous êtes rédacteur en chef de la revue L'Avenir. Quel projet ou quel rêve d'avenir ce jubilé a-t-il aidé à fortifier ou à démarrer?
C'est une question très difficile, ça.
Oh là là.
Oui, bon. Oui, le projet, surtout d'abord, le projet doit se prendre d'abord au niveau personnel. Mm. Les jeunes, chaque jeune doit avoir un projet.
Mm. Et un projet de vie.
Oui, un projet de vie. Et ces projets de vie peuvent accompagner les activités que la personne est en train de faire. Chaque entreprise doit avoir un projet, chaque société doit avoir un projet de vie et cette planification que la personne, le groupe doit avoir, doit être nourri par l'espérance d'aboutir à une bonne fin.
Et tout pour, en s'engageant.
Voilà, pour y parvenir, il faut planifier des choses concrètes, des choses qu'on peut faire proportionnelles à nos forces, à nos capacités, à la vision de notre société, de notre groupe, de notre entreprise. Mmh. Et voilà, donc avec l'espérance, on peut faire mieux, on peut planifier et après les jubilés, on met tout simplement en pratique ce que nous avons planifié tout au long de cette année jubilaire.
Merci beaucoup Frère Ruffin. On nous signale déjà que nous sommes à la fin de notre émission. Une fois de plus, nous vous disons merci pour votre participation active à cette émission et pour votre amour de former la jeunesse congolaise. Nous disons également merci à la régie, à celle qui a pris soin de l'aspect technique, notre sœur Gina Lusongo. Merci à elle et merci à vous également, nos chers auditeurs et auditrices, chers internautes, d'avoir prêté oreille à tout ce que nous disons. Au micro, vous avez suivi les frères Omer Diela, votre humble serviteur, missionnaire de Saint-Paul. Nous espérons vous retrouver à la prochaine. Merci et ciao.
Je me réveille, je n'ai plus peur.